Laissez vos sens s'éveiller grâce à l'écoute alléchée. Un programme espiègle, léger, coquin, qui se veut aussi curieux et interrogateur. Laissez-nous vous emmener faire le tour des courbes et des brèches du désir et prendre la destination du plaisir. Cette programmation est évidemment réservée à un public mature. Embarquement imminent pour l'écoute alléchée, l'écoute alléchée sur RDOA 107.5.
Salut à vous qui nous écoutez ce soir et bienvenue avec nous pour un moment de remise en question et aussi de détente avec mes petites épices préférées. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour tout le
monde. Salut les filles, ça va ?
Ça va bien ?
Ça va, oui.
Ouais ? Super. Alors, tout ce dont on a parlé la dernière fois autour de la pornographie nous a inspiré cette nouvelle émission qui va parler de consentement. Sujet qui peut paraître un peu lourd, certes, mais nous allons l'associer à des récits de première fois empreint de positif et de belles preuves de plaisir partagé. On entend souvent cet adage qui dit « qui ne dit mot consent ?» Ça doit vous parler à toutes et tous. Eh bien certes, le langage du corps existe, c'est ce qu'on appelle le langage non-verbal. Et il peut être indicateur de beaucoup de choses, mais seulement dans le cas où l'un et l'autre est à l'écoute et respectueux de ces corps qui parlent. Sans ça, ce vieil adage n'a aucun sens, et peut même induire complètement en erreur. Alors après, on pourrait rebondir sur un autre adage et dire « l'erreur est humaine ». Mais lorsqu'on parle de sexualité, celui-ci ne doit pas être mis en avant, parce que si l'on joue la carte d'une potentielle erreur d'interprétation au moment du consentement, on peut alors aller jusqu'à parler de viol. Car à un moment donné, les deux parties ne se sont pas comprises, et l'une peut accuser l'autre d'avoir été trop loin, et là, ça devient grave. Dans cette histoire, du coup, le consentement, c'est quoi ? C'est cet accord qu'on donne à l'autre, une approbation verbale ou non-verbale de ce que l'autre vient proposer. On peut donc tantôt être l'initiateur, initiatrice de cette proposition, ou tantôt être la personne qui reçoit la proposition. En fait, ça commence évidemment dès le plus jeune âge. Mais oui, vous savez, on a tous vécu ces moments de malaise étant enfant, où on nous a forcés à faire la bise à tonton, tata, ou une personne complètement inconnue, sous couvert de politesse. Parce que dans notre pays, la bise est de convenance. Alors qu'on peut tout autant signifier un bonjour en arborant un grand sourire, en serrant la main ou juste en saluant oralement. Eh bien oui, ça part donc de là, le consentement. C'est un vrai sujet d'actualité, on en parle partout, dans plein de domaines, et on trouve plein de vidéos, d'articles qui traitent de ce sujet parce qu'on se rend compte que forcer corporellement une personne, c'est-à-dire contraindre un corps, et donc aussi un esprit, à faire ce qu'il n'a pas envie, c'est vraiment pas chouette, et ça laisse entendre qu'on doit certaines fois accepter de se soumettre à certains actes dits « obligatoires », venant contraindre notre libre arbitre. Il y a plein de moments comme ça, tout au long de la vie, qui vont venir construire et figer l'image inconsciente de ce qu'est un comportement attendu. Comportement qui ne nous correspond pas forcément. Cela nous amène donc à la notion de respect, notion ultimement importante à intégrer dès le plus jeune âge et à mettre en pratique. Se respecter soi et respecter l'autre. Ne pas faire subir à l'autre ce qu'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. La base essentielle. Alors c'est vrai, des fois on a tendance à flancher sur les limites qu'on s'est nous-mêmes fixées. Entre ce qui nous appartient de décider et ce qui est inconsciemment et socialement intégré dans nos têtes, et ce qu'on a envie de respecter pour soi ou par rapport à l'autre. On ne sait plus trop où se placer et on laisse donc cette limite se flouter un peu. Des fois même, on est surpris par le comportement de l'autre parce qu'il se produit un geste ou une attitude inattendue qui nous laisse de quoi. Ce qui est important, c'est qu'en termes de sexualité, il y a encore beaucoup à déconstruire et reconstruire ensemble pour faire en sorte que chacun et chacune respecte ses envies, ses limites et évidemment celles de l'autre en face pour qu'on ne souffre plus de situations de malaise, voire même pire. Communiquer devrait déjà être notre priorité de tout bord qu'on soit, intégrer des règles de base quant au comportement acceptable ou inacceptable également. C'est pourquoi l'éducation à la sexualité a toute sa place dans l'enseignement scolaire pour que cessent les dérives. Les parents aussi doivent être impliqués dans cette démarche et que cessent les tabous autour de la sexualité. Aujourd'hui, du fait des dérives graves, on dénonce, on accuse, on juge, car c'est important de le faire. Mais l'essentiel du travail, à partir de 2020 et des années à venir, est de poser des bases solides de déconstruction, de compréhension, de reconstruction, d'acceptation, de respect et de communication à partir des données actuelles du monde dans lequel on évolue. Les anciens schémas éclatent et les tabous tombent. La parole se libère et les esprits s'ouvrent. Alors je vous propose que nous soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde, parce que ça commence par chacun et chacune d'entre nous.
Tu veux pas, tu veux c'est bien, si tu veux pas tant pis, si tu veux pas j'en ferai pas une maladie, oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas, tu veux ou tu veux pas, toi tu dis noir et après tu dis blanc, c'est noir, oui mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique. Y'a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique. Que tu la compliques par tes hésitations. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en fais pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Quoi? Ah, tu dis oui? Ah! Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là!
C'était Michel Zanini. Tu veux ou tu veux pas, sur Radio Diwa au 107.5. Vous êtes toujours à l'écoute de l'écoute alléchée. Et je vais reprendre sur ce morceau en fait, qui date de 1969, où il dit que soit c'est blanc, soit c'est noir. En gros, il n'y a pas de nuance dans le choix. Eh bien, en fait, ce n'est pas aussi simple. Parce que pour créer une nuance, justement, il faut savoir qu'on dénote aujourd'hui ce qu'on appelle des zones grises. Alors, ces zones grises, en fait, ce sont des zones floues qui existent et qui sont ancrées dans notre inconscient, qu'on accepte, mais qu'on commence à gentiment remettre en question de nos jours. Donc, je ne vais pas pousser plus loin le sujet parce que je ne suis pas assez calée, et je vous invite à lire vivement le livre d'Alexia Bouchery intitulé « Troubles dans le consentement ». Je l'ai lu et c'est ça qui m'a permis de découvrir ce terme. Et à la lecture de cette enquête de terrain, ça m'a bien retourné le cerveau parce que même si on croit avoir déjà déconstruit des choses, eh ben, on se rend compte que c'est encore pas assez et qu'il y a toujours à faire. En gros, en fait, ce qu'elle dit dans son bouquin, c'est qu'elle parle de la vision hétéronormée qu'on a en fait, de la sexualité. Donc juste pour la définition, l'hétéronormativité, il s'agit du fait de considérer l'hétérosexualité comme l'unique norme à suivre. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, pour qu'un viol soit reconnu, il faut nécessairement qu'il y ait pénétration d'un pénis dans un vagin. Donc, ce qui enferme en fait les femmes dans un rôle passif, leur donnant seulement la possibilité de répondre positivement ou négativement à une initiative sexuelle émise, voire imposée par un homme. Et à ce propos, je vous invite à une nouvelle fois à retrouver l'article de Maya Mazoret, dont on avait parlé la dernière fois, sur les rôles passifs-actifs. C'était un article paru dans Le Monde en juin 2019 et qui est intitulé « Sexualité pour en finir avec la norme actif-passif ». Donc à partir de là, on se rend compte que tout est alors possible. On peut donc mettre en évidence des schémas existants où un homme peut ne pas consentir à une relation sexuelle avec un autre homme, Une femme peut ne pas consentir à une relation sexuelle avec une autre femme. Un homme peut ne pas consentir à une relation sexuelle avec une femme. Et une femme ou un homme peuvent, indépendamment, ne pas consentir à une relation sexuelle avec un couple agresseur. Deux hommes, deux femmes, ou même un homme et une femme. Bref, il y a de multiples possibilités en termes d'agression sexuelle. Même si celles-ci sont minoritaires, elles sont néanmoins existantes. Et comme au XXIe siècle, les langues commencent à se délier, on a quelques témoignages encore trop rares d'hommes hétéros qui parlent de leur viol. Le problème, c'est que ce qui est admis dans nos sociétés occidentales, c'est que l'agression sexuelle n'arrive qu'aux femmes. Il est donc, pour un homme, et à partir de ce principe-là, difficile d'admettre et communiquer sur ces choses-là. J'ai trouvé un récit sur Internet qui date de 2016, d'un homme qui témoigne de son agression qu'il a subie à 23 ans. En fait, il s'est fait donc violer par deux hommes et il pensait lui-même que cela n'arrivait qu'aux femmes. Et donc, il dit, je cite, « En tant que mec, la seule chose qui vous inquiète, c'est de perdre vos clés ou votre portefeuille. On ne se dit jamais que ces choses peuvent nous arriver à nous aussi. » Ce qui s'est passé est assez classique. Donc, il a fait la tournée des bars avec un ami, il a trop bu, il a fini par perdre son chemin. Il a fini par perdre son chemin et son pote en chemin. Et du coup, il s'est retrouvé à discuter avec n'importe qui. Il s'est laissé inviter pour un dernier verre chez des gens qu'il ne connaissait pas. Et en fin de soirée, deux hommes l'agressent et le sodomisent à son insu. Donc j'ai trouvé dans cet article en fait, une donnée qui dit qu'en Angleterre et au Pays de Galles, il y a 12 000 hommes qui se font violer par an. Et en France, on est à 15 000. Les chercheurs estiment que les hommes hétérosexuels sont moins susceptibles de signaler une agression sexuelle par crainte de compromettre leur identité masculine ou de peur d'être pris pour des homosexuels. Donc Sam, parce qu'il s'appelle Sam, il ajoute, et je cite, « Vous vous demandez si les gens vont vous croire. En plus, vous vous sentez sale, honteux, vous vous douchez en permanence. Vous avez toutes ces émotions dans votre tête. La dernière chose que vous voulez faire est de décrocher le téléphone et d'expliquer ce qui vous est arrivé. » La police n'avait pas l'habitude de s'occuper des hommes victimes de viol. J'ai eu peur qu'ils ne me croient pas et qu'ils ne fassent rien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les assaillants de Sam, en fait, ils n'ont jamais été condamnés parce que la police, les ont arrêtés, mais pas relevé d'accusation par manque de preuves. Sam, il a voulu transformer cette expérience négative en quelque chose de positif. Donc, il est allé sur une chaîne de télévision anglaise et donc il dit « Au début, j'ai moi-même eu des réactions typiquement masculines. J'ai refusé de suivre une thérapie, de prendre des médicaments. Mais après, quand j'ai commencé à exprimer mes pensées et mes sentiments, je me suis sentie beaucoup mieux. Je me suis dit que le fait de partager mon expérience aiderait d'autres hommes qui ont vécu la même chose à se sentir moins seuls. » Donc, il estime désormais qu'il lui incombe de défier les idéaux toxiques de la masculinité en expliquant que n'importe qui peut être victime de violences sexuelles. La masculinité, pour lui, voulait dire être fort et courageux. Mais il se rend désormais compte que c'est une façon de penser ridicule et dépassée. Être un homme, c'est être la meilleure personne possible. Alors, ceci est un témoignage parmi peu d'autres. Et c'est la même chose pour des femmes qui se font violer par d'autres femmes. Pour beaucoup de ces victimes, le manque d'histoires similaires les laisse incapables d'identifier leurs expériences. C'est le cas, par exemple, de Lisa, 48 ans, qui en avait 11 quand sa cousine l'a agressée. Comme beaucoup de gens, elle n'avait pas été mise en garde contre le risque de se faire agresser par une personne du même sexe. À l'époque, Lisa voyait un agresseur comme quelqu'un de puissant, d'inconnu et surtout de masculin, pas une femme jeune et encore moins de sa famille. L'agression qu'elle a subie était contraire à ce qu'elle pensait être normal ou croyable, et le manque de connaissances, d'exemples et de soutien spécifique à ce type de traumatisme l'a laissée seule dans son processus. Une expérience qui a eu beaucoup de conséquences sur sa vie. Ce que je veux démontrer ici, c'est qu'il est présomptueux de se faire une idée préconçue et donc tout à fait erronée de ce qui peut se passer en termes de contact sexuel non consenti et que le pénis n'est pas la seule chose qui puisse venir se mettre dans un vagin, un anus ou une bouche. Je propose que nous acceptions l'idée que le consentement et le respect de celui-ci concernent tout le monde et qu'on se doit toutes et tous de faire en sorte que tout acte non consenti et de quelque manière qu'il arrive, soit dénoncé, et cela même au sein d'une union, d'un pacs ou d'un mariage. Parce que oui, le consentement, ça marche aussi au sein des couples. On reviendra plus tard sur ce dernier sujet, et avant ça, on fait une petite pause musicale avec Sexy Sushi, Non, c'est non, c'est définitif. Et Vince, me too.
Si je te dis non, c'est définitif. Tort ou à raison, toujours excessif. Quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Je suis peut-être une enfoirée, mais c'est non négociable. Si je te dis non, c'est définitif. Tort ou à raison, toujours excessif. Quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Je suis peut-être une enfoirée, mais c'est non négociable.
Décor, il est temps qu'on casse des portes. Si tant d'entre elles balance des bords, c'est qu'à longtemps que le vase déborde. Pour tous ceux qui ont prévu bitch pour une critique, que la femme est de son corps, qu'on soit d'accord. J'emmerde tous ceux qui disent que le diable se cache dans ses formes. Regardez, on voit ses cornes d'un décolleté. Elle m'a tenté, tout qu'après tout, elle a ses torts. Non, non, ses pores me dégoûtent. Alors écoute, faudrait peut-être qu'on les découpe. Pour que tu t'en battes moins les couilles, certaines abusent. Mais je vois plus des gamines perdues que des salopes. Puis un viol, ça reste un viol, ça dépend pas de la taille de sa robe. Et toi qui cries, c'est toutes les mêmes, t'as rien compris. Ou la salope dans cette histoire, c'est surtout toi et ta connerie. Les traités de pute, c'est plus facile que d'admettre qu'elles veulent pas prendre un verre avec toi. Car tu sais pas, t'y prendras avec. Tu gonfles les pecs et les abdominants. Tu vois les femmes comme des femelles, car être un homme c'est être un mâle dominant. Puis on dira que c'est de sa faute si les hommes sont dans l'abus. Oui, regarde un peu ses habits, normal qu'on l'agresse dans la rue. Étouffée par son étreinte, rares sont celles qui portent plainte. Au final au tribunal, on dira qu'elle le voulait peut-être un peu. J'emmerde la justice, impossible qu'on s'entende. Elle qui considère qu'à 11 ans on peut être consentante.
Un homme de 30 ans a quitté après avoir eu des rapports sexuels avec une enfant de 11 ans. L'avocat a plaidé le consentement.
Il faut que son corps tombe à terre pour qu'on voit la gravité. C'est la victime qu'on interne, les coupables sont acquittés. Acquittés, nous parle pas d'égalité. Ici on
sait pas qui c'est. Ça fait un bail qu'elle nous a quittés. Donc être un homme, parfois j'ai honte. Moi qu'est-ce tu veux que je dise de plus. Pas besoin d'avoir sa mère sur le trottoir pour être un beau fils de pute. Tu me crois pas, viens voir les chiffres. La vérité secoue. Y'a plus de femmes qui tombent sous les coups que de maris qui tombent sous écrou. Son homme l'a mis au pied du mur. Cette nuit c'est pas ce dont elle rêvait. Car le viol c'est pas que dans la rue. Même en couple ça peut t'arriver. J'endors debout. Même l'amour est tarifé. Frérot dis-moi ce qui est arrivé. On a été éduqués par des films de boules dans lesquels les femmes sont des chiennes et les hommes sont déchaînés. Hein, et se défoulent sur des meufs qui se font déchirer. Sales idées, peut-être qu'au départ t'hésitais. Mais lui a décidé pour toi. Rapport non désiré. Si l'homme est capable du meilleur, il peut aussi devenir le pire des animaux dès lors qu'il laisse ses pulsions définir.
Il faut qu'on se rappelle que dès la naissance, les garçons et les filles sont conditionnés. On attend d'une petite fille qu'elle soit bien sage, bien discrète, bien élevée, comme une future princesse. Et on apprend aux petits garçons à se comporter comme des super-héros, à avoir du pouvoir sur les choses.
Dans la tête, c'est des rêves de princesse qu'on t'a mis et t'as pas compris. T'as mis une robe, le prince t'a demandé ton prix. Si dès l'enfance, on te contamine, c'est pour mieux te faire taire, les princesses, les Barbie. C'est pour mieux te faire ken. Deviens pas un garçon manqué. Ce que t'aimes on en a rien à foutre. Alors ma fille pose ce ballon. Il faut une bite pour jouer au foot. Oh laisse tomber ces trucs de mec. Les femmes ça rêve que de lune de miel. Aussi ça doit fermer sa gueule. Se laisser traiter comme une de mer. Tu rêvais d'égalité. Le panneau t'est tombé dedans. Faut que t'aies du bout de la poitrine. On se fiche bien tes compétences. Ouais tu seras moins payé que les hommes mais sois docile. Et si tes formes sont généreuses, ton supérieur le sera aussi. Et si l'une d'elles monte en grade, on se demandera qui est la. Y'a que sous la table qu'on trouvera les seules raisons de son succès. Putain, ce monde est sordide. Moi-même, il faut que je me raisonne. J'ai trop de fois entendu des hommes dire c'est pas une femme qui va me donner des ordres. Ouais, et ouais, ça pique. Tous les milieux sont impliqués. Tout le monde, même les hommes de loi. Donc t'attends pas à ce qu'ils les appliquent. Et ouais, tu piges que le changement viendra pas de nos politiques. Suffit d'entendre comment ça parle dans les palais de la République. Ça fait des blagues, ouais, ça rigole. Dès qu'une d'elle mange une banane, ça parle mal. Le sexisme est banal, mais on le dédramatise. Hey madame, viens par ici. Une ambiance qui traumatise. Demande à Weinstein ce qu'il faut faire pour avoir un contrat d'artiste. Donc oui j'ai peur que ma fille trime dans un monde qui voudra l'objetiser, monétiser son corps jusqu'à le mettre en vitrine ici. Être une femme est un combat ici. Leur courage m'empêche de dire le mot victime. Sache qu'on est tous un peu coupables.
Ici, l'écoute alléchée sur RDOA 107.5. Alors, dans la loi, on ne parle pas clairement de consentement. Ils sont définis dans la loi le harcèlement, les agressions sexuelles et le viol. Par exemple, la définition du viol qu'on retrouve, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que quand le consentement pour un rapport sexuel a été donné pour un rapport sexuel protégé, si le préservatif est enlevé sans le consentement d'une des deux personnes, il s'agit d'un viol aussi, s'il y a pénétration. La loi définit aussi d'autres choses, comme par exemple la majorité sexuelle, qui en France, elle est déterminée à 15 ans. Alors pourquoi 15 ans ? Pour plusieurs raisons. Déjà, on a été déterminé qu'à cet âge-là, le corps était capable de supporter un rapport sexuel et qu'une personne était capable de donner son consentement éclairé. Alors là, une fois de plus, évidemment, c'est une moyenne qui a été déterminée comme ça. Ça dépend de chaque individu, quand chaque personne est prêt. Donc une personne, en gros, en dessous de 15 ans, il en va de la responsabilité des parents si deux jeunes ont des rapports sexuels entre eux de moins de 15 ans. À partir de 15 ans, en fait, on peut avoir des rapports sexuels avec des personnes qui ont plus de 15 ans, à condition que ces personnes n'aient pas d'ascendance sur nous, que ce ne soient pas nos parents, nos grands-parents, des personnes qui ont une autorité sur nous. Donc, par exemple, un beau-parent, un prof, un animateur de colo, un représentant de la loi, un policier, par exemple. Et ou quelqu'un aussi, on considère que quand il y a une trop grosse différence d'âge, ça peut être... signe d'autorité. Par exemple, une personne qui a 16 ans et qui a un rapport sexuel avec une personne qui en a 39, on considère que l'écart d'âge est trop grand et que donc là, il y a autorité. Donc, je parlais de consentement libre et éclairé. Je pense que c'est important de savoir en quoi la société, elle impacte notre sexualité, parce que ça permet du coup de faire un choix qui est plus libre et plus éclairé pour donner notre consentement, mais aussi pour être plus apte à attendre, entendre et respecter le consentement de nos partenaires sexuels. On reparlera plus tard dans l'émission de différentes manières de demander et d'indiquer qu'on est consentant pour quelque chose. Du coup, je tiens juste à dire maintenant que souvent, il y a des personnes qui sont accusées de viol ou d'agression sexuelle qui disent que l'autre personne en face n'a pas exprimé clairement son non-consentement. C'est important de garder en tête que dans une situation qui peut être choquante, enfin qui est choquante d'ailleurs, le corps il réagit d'une certaine manière et on peut être complètement sidéré, ne pas savoir comment réagir, même être incapable de réagir, et que le cerveau et le corps en fait sont même souvent amenés à se dissocier. Je vous invite à vous renseigner sur comment ça fonctionne, mais le corps c'est une réaction de protection du corps. Et dans ce cas-là, on peut être complètement figé sur place, même pas forcément se rendre compte directement de ce qui est en train de se passer, et qu'on n'est pas toujours apte à réagir comme il faudrait, entre guillemets, comme c'est attendu qu'on le fasse. D'ailleurs, ça me fait penser que souvent on dit « est-ce que t'es OK ?» ou on dit « oui, je suis d'accord de faire ça, oui, bon, d'accord, on peut faire cette pratique ou cette autre pratique », mais qu'être OK ou être d'accord, c'est différent que vouloir, que désirer, que d'avoir envie. Du coup, c'est intéressant aussi de se questionner là-dessus. Se dire, quand je fais une pratique, OK, je la fais, est-ce que parce que je suis d'accord de la faire ou parce que j'en ai envie? Et est-ce que je choisis de faire que des pratiques dont j'ai envie? Et voilà. Et puis, je terminerai ce petit passage en proposant qu'on n'emploie plus l'expression « un non qui veut dire oui ». J'entends par là que souvent... on parle que dans des jeux de séduction, ce serait souvent la femme qui dirait non, j'ai pas trop envie, tout en étant séductrice. Et que du coup, ça induirait ensuite les hommes en erreur. Parce que du coup, quand ils entendraient non, des fois, des fois non, ça voudrait dire oui. Je pense qu'il y a plein de manières de se séduire, il y a plein de manières d'avoir des rôles pour jouer dans la sexualité. Que comme il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire vraiment dans la sexualité, tant qu'on respecte ses envies et le consentement et les envies de nos partenaires, je pense qu'on peut enlever une phrase parmi toutes celles qu'on peut utiliser. Donc d'enlever ce non qui voudrait dire oui.
Belle proposition.
Merci. Donc maintenant, on va écouter deux chansons. Une première de Suzanne, SLT, et une deuxième de Sheila, Si j'étais un homme.
Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, y a un type qui gueule. Salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. T'as un hum, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai. Bats-toi, fille. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici. Tout le monde est parti, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu vas quand même pas refuser. De toute façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première à passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bats-toi fille. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Hey, salut l'ami, t'es vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé, mais moi je payerai même pas pour des nems à volonté, parce que t'en vaux pas la peine. De toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr, tu fais la mort parce que tu te crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna quand je serai en bas dans ta rue. On verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bats-toi fille.
Comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne. Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos. Si j'étais un homme, ah, ah, ou. 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 Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs. Je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme. On se dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferais des promesses que je ne saurais tenir. Je te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aléa du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles,
Je soulèverai ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, ah, ouh. Si j'étais un homme, ah.
J'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Oh, oh. Si j'étais un homme, si j'étais un homme, mais je ne le suis pas.
Vous êtes toujours avec nous dans l'écoute alléchée au 107.5 sur RDWA. Alors moi, j'ai écouté dernièrement un podcast super intéressant qui s'appelle Sexe, etc., qui est en écoute sur Podbean et il m'a beaucoup éclairé sur la notion de consentement. Je vous mettrai le lien en description sur le site. En fait, j'ai adoré ce podcast parce que non seulement il vient appuyer le fait que quand on parle de consentement et donc d'agression sexuelle, on ne se bat pas contre les hommes, mais contre les personnes qui agressent, qu'ils soient hommes, femmes ou autres. Elle parle aussi du consentement au sein du couple et fait le constat qu'en 2020, après une période de confinement où les couples se sont retrouvés l'un et l'autre sous le même toit pendant des semaines, il a été observé qu'il y a eu pas mal de tensions, voire des violences entre eux, et ce notamment en lien avec leurs relations sexuelles. Donc ces violences, elles peuvent être de plusieurs ordres. Et elles peuvent se manifester par des menaces physiques ou psychologiques et provenir de l'un ou l'autre partenaire. On sait tous ce qu'est le chantage affectif, par exemple. Eh bien, en user, c'est ne pas respecter l'envie de l'autre et c'est forcer le consentement. Donc si ton ou ta partenaire dit par exemple « Ouais, ok » ou encore « Ouais, comme tu veux » parce que ça fait un mois que vous n'avez rien fait, le message, en fait, il n'est pas clair. Et s'il se passe quoi que ce soit après ça, c'est forcer le consentement. Au Québec, parce que ce podcast, il est québécois, le slogan fort, c'est « sans oui, c'est non ». Il y a plein de manières de forcer le consentement de l'autre. Par exemple, l'empêcher de partir ou être excessivement jaloux et contrôlant, insister pour avoir un contact sexuel, refuser de donner de l'affection comme technique de manipulation ou menacer encore de quitter le ou la partenaire. Donc, dans son podcast, elle ajoute que c'est pas parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble que vous êtes marié ou peu importe la situation, on a toujours le droit de dire non et on ne doit de relations sexuelles à personne. Donc le consentement, ce n'est pas un abonnement à Netflix qui se renouvelle automatiquement. Vous devez demander la permission à chaque épisode, à chaque nouveau film que vous voulez regarder. C'est décevant que votre partenaire change d'idée, mais c'est encore plus horrible de se faire abuser. Tout ça me permet de faire le lien avec un article de Maya Mazorette qui pose la question de l'abolition du devoir conjugal. Elle s'interroge sur la survivance de cette notion issue du droit canonique de l'Église catholique au Moyen-Âge. Est-ce qu'on est réellement libre de dire non quand il y a des sentiments? Et comment on peut définir le viol conjugal? Donc Maya Mazorette, elle est allée rencontrer Julie Mathiussi, maîtresse de conférence et autrice d'un article intitulé « Le devoir conjugal, de l'obligation de consentir » qui paraîtra fin 2020 dans les actes du colloque. Envers et revers du consentement. Donc Julie Mathiussi rappelle d'abord que le devoir conjugal est issu du catholicisme. À l'origine, cette obligation est censée servir de cadre à la procréation et de garantie contre le péché du plaisir. Donc lors de l'invention du mariage moderne, après la Révolution française, le Code civil ne mentionne pourtant ni consommation du mariage, ni devoir conjugal. Ils existent, mais la pudeur interdit alors de les inscrire noir sur blanc dans le texte. À partir de 1965, l'article 215 du Code civil établit que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, laquelle induit une communauté de lits. Le manquement au devoir conjugal est une cause de divorce pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts pour la victime, à condition qu'elle puisse prouver l'absence de rapport sexuel. Donc concrètement, quand il y a ces procédures qui se mettent en place, les accusations de négligence sexuelle sont rarement retenues. En plus, l'appréciation du juge est subjective. À partir de quand les rapports sexuels sont-ils considérés comme suffisamment fréquents ? Ce rapport sexuel légal est-il forcément une pénétration ? L'exigence varie-t-elle selon que c'est un homme ou une femme qui s'en plaint et selon que le couple soit hétéro ou homosexuel ? Donc en 2020, dans un monde post-MeToo, est-ce qu'il faut conserver ce vieux vestige religieux dans notre société laïque ? Donc en effet, les époux se retrouvent piégés par des injonctions contradictoires. On n'est pas forcé, mais on se force soi-même. L'amour est enfant de bohème, mais soumis aux lois. Le sexe est un plaisir, mais aussi un sacrifice. Nos émancipations toutes fraîches se heurtent aux schémas les plus traditionnels et à l'intériorisation de stéréotypes sur le désir des hommes et des femmes. Pour Julie Mathiussi, le devoir conjugal devrait être purement et simplement aboli, parce qu'il tolère et encourage, donc là je cite, « il tolère et encourage des relations sexuelles consenties avec répugnance. L'idée qu'il faille se forcer est intrinsèquement pernicieuse. La sexualité du couple a besoin de conversation, pas de sanctions. » Donc pour finir, je rebondirai sur ce qui est dit dans le podcast québécois sur le consentement, qui est que ça se fait tout à fait de demander à son partenaire « est-ce que t'en as envie ? Est-ce que t'aimes quand je fais ça ? Est-ce que je peux aller plus loin ?» Et je rajouterai personnellement « je me verrais bien en train de te lécher. Est-ce que ça t'exciterait si je mettais le bout de ma langue là ou là ?» Savoir faire monter l'excitation chez son ou sa partenaire, ça commence par lui amener cette excitation. Ça ne sert à rien de faire monter l'excitation dans un coin de votre tête et quand vous êtes chaud, d'aller voir la personne en face et lui sauter dessus. Si on fait ça, c'est sûr que l'autre ne peut pas comprendre où on en est et vous avez beaucoup de chances de recevoir un non comme réponse. Donc gardons nos mains baladeuses pour nous. Partageons d'abord des mots, des phrases, puis si cela commence à fonctionner, peut-être quelques caresses. Puis ensuite, eh bien, voyons ce que ça peut donner. Mais surtout, assurons-nous que c'est toujours OK pour l'autre en face. Ça peut rendre une relation vraiment sexy et des petits mots susurrés à l'oreille, ça excite un peu quand même, non ? On peut s'inspirer des pornos audio dont on vous a parlé la dernière fois dans notre émission. Ils sont plein de chouettes exemples à mettre en pratique. On peut aussi prendre un livre érotique et lire ensemble quelques passages. Ça peut être une petite pratique coquine. Bref, décomplexons-nous, relâchons-nous, essayons. Et plus on essaiera, plus on se rendra compte que ça peut fonctionner. Si cela ne fonctionne pas, restons toujours respectueux de l'autre. On ne peut pas toujours être calé sur les mêmes envies. Bref, soyons inventifs et attentifs. Et communiquer, c'est la clé. Et tout de suite, on va écouter Soumak, qui nous fait une petite reprise de la chanson du consentement qu'on peut retrouver sur le site Violence Sexuelle Info. On vous mettra le lien de la chanson et le lien du site sur le podcast. On t'écoute, Soumak.
Alors d'abord, je tiens à vous remercier, mes petites épices, car grâce à vous, j'ai appris une nouvelle chanson avec laquelle je suis sûre, dorénavant, je vais enchanter tous mes amis en soirée. Alors c'est parti, mon
cli-cli.
Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour soi. Oui, oui, oui. Non, non, non. Avant de fourniquer, il faut bien demander. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour soi. Nana qui dort, non, 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 même avec du beurre, non, 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 je vais me faire voir ailleurs, oui, 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 ce mec est bourré, non, 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 je peux le déshabiller, non, 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 je laisse dessouler, oui, 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 oui. Coucher par politesse, c'est pas pour les princesses, mais coucher par envie.
Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non. Et quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour soi. Oui, oui, oui. Non, 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 avant de fourniquer, il faut bien demander. Quand c'est oui, c'est oui, quand c'est non, et quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour soi.
Quand tu sais pas, tu gardes tes doigts pour toi.
Merci Soumak. C'était chouette.
Avec plaisir. On continue dans l'écoute alléchée sur Radio Diwa 107.5 en parlant de virginité. Souvent, virginité va de même avec hymen, cette membrane que l'on retrouve à l'entrée du vagin, qui fait beaucoup parler. Donc, on va commencer par l'hymen. L'hymen, il y a une femme, par femme, j'entends personne qui a un vagin. Donc, il y a une femme sur trois qui naît sans hymen, une sur trois qui perdra son hymen avant tout premier rapport sexuel avec pénétration dans le vagin. Toutes ne vont pas forcément avoir leur hymen déchiré. Voilà, sachant qu'on dit souvent que la virginité, ce serait donc perdre sa virginité, ce serait quand le pénis rompt l'hymen, libérant une grande quantité de sang et faisant que du coup, la femme n'est plus vierge. Alors, déjà, le sang, toutes les femmes ne saignent pas lors de leur première fois. Dans la majorité des cas où il y a du sang lors du rapport sexuel, lors du premier rapport sexuel, lors de la première pénétration en tout cas dans le vagin, du sang, des douleurs et tout ça, c'est que en fait on fait tellement tout un plat de la première fois comme quelque chose qui est stressant, qui va faire mal, qui va être un moment important de la vie, qui après ça on sera différent, que si on le fait avec la mauvaise personne, ça aura des retombées sur le reste de notre vie, etc. Qu'on se met tellement de stress que du coup, eh ben, souvent les personnes qui ont un pénis, eh ben, ils vont un peu fort parce que eux, c'est stressant, tu dois déchirer quelque chose, il faut y aller, quoi. Et que du coup, eh ben, les personnes qui ont un vagin ont tendance à faire genre « oh là là, c'est stressant », et du coup, comme les muscles du vagin vont se serrer aussi, ça crée des frictions et du coup, les muqueuses peuvent saigner aussi un petit peu. On dit aussi souvent qu'un gynécologue peut constater, peut dire si la personne est vierge ou non, ce qui est faux. Un gynécologue peut voir si une personne a été violée, par exemple s'il y a eu de la violence et que l'entrée a été forcée. Mais la seule personne qui peut attester de la virginité, c'est la personne elle-même, à condition déjà qu'elle s'en souvienne. Parce que par exemple, lorsque des personnes se font violer, c'est possible d'oublier pendant un certain nombre de temps qu'on a eu, par exemple, quelque chose déjà qui nous a pénétré. Ensuite, à considérer si on considère qu'un, par exemple, un viol dans l'enfance serait une première fois. Ça appartient à chacun. On va écouter un petit extrait de Laura Berlingot, qui est une gynécologue obstétricienne et qui a fait une vidéo pour Brut où elle parle du mythe de la virginité. Il y a un passage que je trouve intéressant qu'on va écouter tout de suite.
D'où ça vient, donc cette fausse idée, ce faux lien entre hymen et virginité, bah c'est très ancien, hein, c'est retrouvé dans plusieurs sociétés, dans plusieurs religions, et c'est quand même une vision assez patriarcale et hétéronormée. Donc je vais m'expliquer. Patriarcale pourquoi ? Parce qu'il s'agit quand même ici de contrôler le corps des femmes, de contrôler leur sexe, de contrôler leur sexualité, et au-delà de contrôler leur capacité reproductive, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est que lorsque la femme reste vierge pour le mariage, si elle tombe enceinte, ce sera donc forcément de son mari et non pas de quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même cette idée. Et par ailleurs, cette idée d'hétéronormativité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne conçoit les rapports sexuels que comme un rapport hétérosexuel potentiellement fécondant, c'est-à-dire un rapport sexuel de pénétration entre un pénis et un vagin. Or, c'est une vision fausse ici aussi. Associer rapport sexuel et pénétration, ça n'a pas de sens. Il y a des pénétrations dans le vagin qui ne sont pas des rapports sexuels. Par exemple, mettre un tampon ou une coupe menstruelle peut un petit peu dilater l'hymen et pourtant ça n'a rien de sexuel. Et à l'inverse, des pratiques telles que le cunnilingus ou la masturbation externe sont réellement de la sexualité qui n'implique absolument aucune pénétration. Voilà, on vient de voir que, en fait, ce lien entre hymen et virginité, non seulement est faux anatomiquement, mais en plus, intellectuellement, c'est un petit peu fumeux.
Donc, on va continuer en parlant de première fois. Alors, on dit qu'en France, enfin, les statistiques montrent qu'en France, l'âge de la première fois, du premier rapport sexuel, c'est environ 17 ans, pour les filles comme pour les garçons. Ça pose la question de ce que c'est un rapport sexuel, en fait. Si on considère qu'un rapport sexuel, c'est un pénis dans un vagin, et que tant qu'il n'y a pas eu cette pénétration-là, on est toujours vierge, et ben dans ce cas-là, forcément, quand on renseigne l'âge de notre première fois, et ben 17 ans, ça colle. Ensuite, si on réfléchit à donc un rapport sexuel, c'est pas forcément un pénis dans un vagin. Et par exemple, des choses dont on parle trop peu souvent, je pense, enfant, on peut découvrir sa sexualité avec d'autres enfants. C'est une première découverte de la sexualité. Ensuite, on n'est pas obligé non plus de faire de la pénétration pénis-vagin tout de suite. Est-ce que d'ailleurs il y a un pénis ou est-ce que d'ailleurs il y a un vagin qui sont en jeu ? Donc tout ça re-questionne un peu ce que sont les premières fois. Il faut bien garder en tête qu'il y a une incohérence des pressions sur la première fois. Il faudrait que les petits garçons le fassent le plus vite possible et il faudrait que les petites filles attendent le plus tard et qu'elles soient amoureuses. Et là, ça pose d'autres questions parce que quand, par exemple, une petite fille se fait embêter dans la cour de récré par un garçon, on lui dit que le garçon, eh ben, il l'embête parce qu'il est amoureux d'elle. Donc voilà, ça questionne un petit peu. Et ensuite, on apprend aussi aux petits garçons à mépriser les filles, mais ils doivent aussi les aimer. Donc tout ce bazar-là rajoute aux pressions pour la première fois. Ce qui est important, je pense, et je terminerai là-dessus, ce qui est important de se garder en tête, c'est la recherche du plaisir, le partage, tout ça en étant consentant dans une recherche mutuelle avec ses partenaires. Et au-delà de se dire « est-ce que je suis vierge, est-ce que je suis plus vierge », d'être obligée de mettre des mots dessus, c'est de pouvoir en fait dire pour des raisons de santé, quand par exemple on va chez le médecin, de pouvoir dire si on a déjà eu une ou des interactions sexuelles, par exemple pour les IST, de ne pas se retrouver dans le cas où on a eu des risques lors de certaines pratiques non pénétratives, des risques d'IST, et qu'en fait on dit « ben non, moi j'ai jamais fait de pénétration, je suis vierge », et du coup de laisser traîner des choses et que le diagnostic du médecin ne soit pas correct. Voilà, ah oui, on va continuer en écoutant une chanson de Trio qui s'appelle « La première fois ».
La première fois, des fois juste en claquant des doigts, la première fois qui se déclenche malgré soi, la première fois, toujours en évitant la file, la première fois qu'on voit ce que c'est qu'une fille.
La première fois, en escarpin ou en guenille, la première fois, celle qui apaise et qui vrille, la première fois, ça laisse un goût indélébile, une première fois,
un peu comme sur le toit du monde.
Et malgré soi, s'attacher à quelques secondes, la première fois. Et pourquoi pas une deuxième, la première fois que l'arbre découvre la sève et ça se voit.
L'enfant a découvert la fève.
C'est moi le roi,
livré aux caprices des reines.
La première fois, qu'elle fut courte, qu'elle fut brève. La première fois, blottie de silence.
Un cri,
la première fois.
Et puis bien d'autres se sont suivis.
La première fois, goutte de sueur sur le nez entre tes doigts, une capote à retirer, la première fois,
une déception particulière,
la première fois,
que l'on veut découvrir l'envers,
une première fois, qu'on fait en regardant le ciel, la première fois, le corps tout recouvert de miel.
Est-ce que ça va?
Acceptera-t-elle la traîne,
la première fois,
que l'on peut sentir ce qu'on s'aime et derrière soi, le corps blotti contre toi la première fois.
Un vrai cauchemar, m'en parle pas de cette première fois.
Une fille facile,
un vrai salaud.
La première fois, quand ça arrive un peu trop tôt et malgré soi,
je ne m'en suis jamais souvenu, cette première fois,
chez ses parents,
dans la rue.
La première fois, un coup d'éclat, une panique. La première fois, je me souviens de la musique.
Et de sa voix, le temps passe, on est nostalgique, ça s'en va.
C'était hier, ça pique.
Ta première fois.
Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu pars?
La première fois,
c'était tout à fait par hasard.
La première fois, tu sais, tu t'attends au pire et puis ça va. Ça fait tout chaud, ça tire la première fois. Comme un trésor, un leurre, la première fois. Pourquoi tu pleures?
Regarde-moi, à la recherche de ton corps, la première fois.
Il paraît qu'elle vaut de l'or,
cette fille-là.
Elle arrive, elle ne prévient pas la première fois.
Laisse les années derrière soi.
La première fois. Moi j'attends toujours qu'elle arrive la première fois.
Ouh là là, ça c'est vraiment terrible hein.
La première fois.
C'est bon, vas-y, stress ça.
La première fois.
C'est là et on se dit, voilà.
La première fois. Et ben moi, c'était avec une blonde, la première fois.
Ah ouais?
T'as étonné tout le monde hein.
La première fois, ma soeur moi, elle était cash. La première fois.
J'ai pas compris pourquoi la tâche.
Une première fois. Lit de pétales et sous tes doigts, rien que pour toi. Comme une étendue sous nos pas la première fois. Et puis quand on se l'imagine, ça nous déçoit. Et puis on se revoit gamine la première fois.
J'avais 5 ans.
Non, je te crois pas.
La première fois. Allez savoir, j'ai oublié la première fois.
C'est là que tout a commencé.
C'est là que tout a commencé.
C'est là que tout a commencé.
Les ogres de Barbac.
Vous êtes toujours dans l'émission L'écoute alléchée sur RDIWA 107.5. Curcuma, j'ai une question à te poser.
Oui.
Est-ce que tu as envie de nous déclamer ton texte?
Tout à fait.
Merci.
La première fois. Ton corps nu, la première fois que je l'ai vu, dans mon corps une sensation inconnue, comme une chaleur qui m'envahit, comme si mon esprit avait fui. Au fond de moi, une envie jaillit. Je suis émue d'apercevoir tes courbes et la confiance que tu m'accordes. On se dévoile et mon cœur s'emballe. J'ai envie de t'apporter de la tendresse, de caresser tes fesses, d'embrasser ta peau douce dont je ne connais encore le goût. Chaque seconde de cette découverte, de la réalité me déconnecte. Mon esprit devient flou. J'aimerais qu'on ne fasse qu'un, mais je ne veux pas te brusquer. Je veux que notre première fois soit douce et te donne un plaisir démesuré. Après de longues caresses, tu sembles prête pour notre union. Notre amour devient action, la plus délicate des sensations, et aussi la plus intense, un plaisir immense. Que l'amour est une belle chose quand le cœur et le corps se rencontrent. La première fois que l'on voit une personne qui nous plaît. La première fois que l'on comprend qu'il y a une attirance et que l'on découvre l'envie sexuelle. La première fois qu'on lui dit qu'elle nous plaît. Que l'on embrasse cette personne. Que l'on se met nu devant quelqu'un. La première fois que l'on touche un corps. La première fois que quelqu'un touche notre corps. Nous caresse la peau, la poitrine, les fesses, le sexe. La langue qui se balade. La première fois que l'on se fait pénétrer. La première fois que l'on pénètre. La première fois que l'on a un orgasme, la première fois que l'on dit je t'aime.
Mmh.
J'ai tout oublié des campagnes, d'Austerlitz et de Waterloo, d'Italie, de Prusse et d'Espagne, de Pontoise et de Landerneau. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras, la première étrangère à qui l'on a dit tu. Mon cœur, t'en souviens-tu comme elle nous était chère, qu'elle soit fille honnête ou fille de rien, qu'elle soit pucelle ou qu'elle soit putain, on se souvient d'elle, on s'en souviendra, la première fille qu'on a pris dans ses bras. Ils sont partis à tire-d'aile, mes souvenirs de la Suzon, et ma mémoire est infidèle à Julie, Rosette ou Lison. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras. C'était une bonne affaire, mon cœur, t'en souviens-tu? J'ai changé ma vertu contre une prime verre, que ce soit en grande pompe comme les gens bien, ou bien dans la rue comme les pauvres et les chiens. On se souvient d'elle, on s'en souviendra, la première fille qu'on a pris dans ses bras. Toi qui m'as donné le baptême d'amour et de septième ciel, moi je te garde et moi je t'aime, dernier cadeau du Père Noël. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras. On a beau faire le brave quand elle s'est mise nue, mon cœur, t'en souviens-tu, on n'en menait pas large, bien d'autres sans doute depuis sont venus. Oui, mais entre toutes, celle qu'on a connue, elle est la dernière que l'on oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras.
C'était Georges Brassens avec La première fille. Je vais vous faire part d'un témoignage que j'ai trouvé sur Internet. Je ne vous en dis pas plus, je vous le lis. J'ai vu quelques sujets plus bas qu'un mec avait partagé sa première expérience avec un homme. J'avais aussi envie de partager ma première fois avec un homme, parce qu'elle est particulière. Pour préciser le contexte, je suis bi à tendance hétéro. Je couche avec des sentiments pour les femmes. Je couche avec des hommes sans sentiments. Donc un soir, j'ai passé une annonce sur un site reconnu désormais grâce à une célèbre émission diffusée sur la chaîne 8. Je l'ai fait car j'avais envie de fantasme et je voulais aussi passer à l'acte, en vrai. Après avoir eu plusieurs réponses, un mec m'avait répondu favorablement et nous nous sommes donné rendez-vous à quelques pas de mon appart étudiant. Je me suis préparée vite fait, histoire de pouvoir être rapide par la suite. T-shirt, jean, pieds nus dans les baskets. J'y suis allée et il était bien là. Ce n'était pas une arnaque. On s'est vite salué et je l'ai dirigé vers mon appart. Il est donc arrivé, ce gaillard de 35 ans, moi j'en ai 19, avec son gabarit similaire au mien, sauf qu'il était un peu plus musclé. Il a découvert le lieu où il allait faire de moi un dévirgé du fessier. De suite, je l'ai mis en condition en lui demandant d'enlever ses chaussettes en même temps que ses chaussures. On s'était mis d'accord que lui me prêterait des sous-vêtements féminins pour que je les mette. Il aimait bien l'idée, et moi aussi. Pendant que je mettais la nuisette, le string dentelle et le bas, lui enlevait le pantalon, pull, et s'allongeait sur le lit, et me dit « Je suis à toi ». Je lui ai demandé de retirer son pull, et à partir de là, je lui échangeais caresses, et lui me touchait les fesses et tout le corps. On s'est même roulé une pelle, l'un et l'autre. Et là, j'ai compris ce que je faisais et mes tremblements dus au stress se sont évadés. Je lui ai ensuite retiré son boxer blanc avant de lui sucer avec envie sa verge de 17 cm minimum. Bien évidemment, il était là pour m'apprendre et me reprenait quand j'y mettais les dents. Il m'a appris à faire une gorge profonde, ce qui n'est pas très agréable pour moi. Et par la suite, il a voulu à son tour me sucer. Et là, de plaisir, j'ai joui. Ensuite, après l'avoir de nouveau sucé langoureusement pour bien que sa verge soit mouillée, il m'a demandé si je voulais continuer. J'ai bien évidemment accepté. String et nuisette enlevées, Il m'a lubrifié le trou avant de me pénétrer avec un préservatif. Déjà, le plaisir de la lubrification était présent, mais il m'a ensuite demandé si j'avais des positions favorites, et moi, n'ayant jamais connu ça, j'avais répondu négatif. Il m'a donc tout montré. Il m'a demandé de me mettre sur le côté pour me sodomiser, puis ensuite, à plat ventre. Il avait une telle douceur que j'adorais la sensation du gland quand il pénétrait mon anus. Moi qui craignais d'avoir mal, finalement, j'étais rassurée. Je me suis mis en levrette pour que je sente bien sa verge avant qu'il ne s'allonge et me demande de s'asseoir sur lui, avec sa verge dans mes fesses. Sûrement la meilleure position de la soirée. Pour me terminer, il m'a remis à plat ventre et il faisait claquer ses couilles sur mon fessier avant d'éjaculer dans la capote. Voilà, je venais de subir ma première sodomie et faire ma première fellation avec plaisir.
Alors, je suis super intriguée ou surprise. En fait, il dit qu'il éjacule et lui-même ensuite, il va faire une fellation au gars. Peut-être que ce gars, s'il avait été avec une femme, il aurait éjaculé et il n'aurait rien fait ensuite.
Peut-être.
Je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, ça m'a.
Ouais.
Ça m'a
de pouvoir continuer l'acte.
Mais parce que je pense qu'en tant qu'homme, il savait que l'autre avait besoin d'éjaculer. Alors que peut-être que quand il y a une femme en face, je fais des généralités, hein, mais souvent, entre un homme et une femme, l'acte sexuel se termine quand l'homme éjacule. Et du coup, voilà, moi je m'interroge, c'est qu'en fait, comment il aurait fait le gars s'il a été qu'une fille ? Ça se trouve, il n'aurait pas continué. Enfin, juste parce que c'est tellement clair que pour lui, l'autre doit éjaculer. Enfin voilà, c'était là, je me suis dit, waouh.
Tu veux dire que l'homme, il n'attend pas, du coup, si lui, il a éjaculé, il n'attend pas que la femme, elle. Enfin, il ne continue pas pour qu'elle, elle ait son orgasme aussi ? Dans la plupart du temps.
Beaucoup d'hommes, ouais. S'arrêtent. Ouais. En fait, l'acte s'arrête quand l'homme a éjaculé. Et même s'il a éjaculé précocement, que la femme juste commence. Des fois, ils arrêtent quand même. Mais bon, ça, c'est aussi pour d'autres raisons, parce qu'ils ne se sentent pas très bien.
Alors, peut-être que je peux retrouver cette personne sur le forum et lui demander ce qui se passe avec sa copine.
On va lui demander.
On va faire une enquête. tout de suite, on va enchaîner pour une petite conclusion avec une vidéo, en fait, assez courte d'une fille. Qu'est-ce qu'elle dit ? C'est une humoriste ?
Oh, on va la laisser dire.
Ouais, on va la laisser dire. Allez, on écoute ça tout de suite.
Bon, j'étais posée comme ça en train de réfléchir, parce que ça m'arrive. Et je me disais, il est important de rappeler que quand une fille dit non, c'est non. Mais quand un gars dit non, c'est non aussi, les filles. Parce qu'on a vite fait d'oublier quand un gars te dit non, je ne veux plus de cette relation, c'est fini entre nous. Non, je vais essayer pour deux. Non, il a dit non. Il a dit non. Quand un gars te dit non, je ne veux pas de relation, je ne pourrais te proposer qu'un plan cul, ne te dis pas peut-être que il a dit non. Quand un gars te dit non, je ne veux pas me marier, il ne se mariera pas. Il a dit non, non. Ouais, mais c'est parce que tu crois que c'est une petite feature. Il a dit non. Quand un gars te regarde dans les yeux et qu'il te dit non, ce n'est pas ce que tu crois, c'est seulement une collègue, ça vérifie. Hey, ça coûte rien. Vérifie, putain.
Alors c'est Inès Reg en fait qui a fait cette petite vidéo qui a été balancée sur Facebook. Moi j'aime beaucoup la fin. Après ça marche aussi dans le sens inverse. Si vous êtes un homme et que votre copine ou relation vous dit qu'elle a été voir un collègue, ça marche aussi de vérifier.
Bien sûr.
Ça marche dans tous les sens. Et ben voilà, on arrive à la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, on va écouter un petit morceau.
Allez, un petit Jeanne Mas.
Qu'est-ce qu'on écoute ?
Jeanne Mas, première fois.
À l'ancienne, pour une toute première fois. Ouais. On se retrouve dans un mois.
Le mois prochain.
Avec grand plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien, touchez-vous bien, soyez doux et attentifs à vous-même. Et voilà.
Prenez soin de demander le consentement et d'être clair dans votre consentement.
Oui, soyez clair avec vous-même et avec les autres. C'est important.
Ouais.
Et on vous fait tout plein de bisous. Bye bye.
Ciao. Ciao.
déchirer l'étrange palais.